Armelle Le Hen, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes candidat pour les municipales de Manosque, soutenu par le maire Bernard-Jean Méperalta, vice-président également de la DLVA, délégué au développement économique, et conseiller municipal délégué aux finances. Première question, Armelle Le Hen, ça vous a fait du tort d'avoir été soutenu, voire, on va dire, adoubé en quelque sorte par Bernard-Jean Méperalta? La décision a été qualifiée, comme le disait un autre candidat, hein, Camille Galtier, de prise dans un bureau et seule.
Bon, je ne sais pas si ça me fait du tort. Je crois que pour cela, il faut attendre le résultat des élections pour le dire. Moi, je suis heureux de disposer de la confiance du maire. J'ai autour de moi une équipe expérimentée, volontaire, qui est représentative de tous les manosquins, qui a un gros réseau, parce que c'est effectivement important, et une bonne connaissance du territoire. Donc faire du tort, on verra.
Quand même, si, ça vous en fait. Il y a ce premier bilan qui vous suit. Vous n'avez pas réussi à mettre derrière vous la majorité actuelle qui est en train de s'éclater. Pascal Antic, Jacques Bresse, Valérie Pesson. Il y a aujourd'hui 4 listes de droite à la veille des municipales.
Non, il y a 4 listes de droite. Il y a 3 listes de droite et une liste de droite extrême, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Il y avait 4 listes aux précédentes élections en 2014. Il y en aura probablement 5 cette fois-ci. Ce que je peux dire, c'est que la plupart des gens qui sont élus depuis 2 ou 3 mandats repartent sur d'autres listes que la mienne. Ma liste est constituée d'élus jeunes qui ont fait pour la grande majorité d'entre eux un mandat. On a vu très rapidement au cours de ce troisième mandat des divergences de vues à la fois sur la vision de Manosque à 20 ans et surtout sur la méthode.
Finalement, c'est presque un soulagement pour vous de ne plus compter à vos côtés Pascal Antic, Jacques Bresse ou Valérie Pesson ?
Non, c'est pas un soulagement. Je crois qu'on a une autre vision pour Manosque, on a une autre façon de travailler, beaucoup plus horizontale, beaucoup plus transversale, beaucoup plus en mode projet. Je pense qu'ils n'ont pas été biberonnés à cette façon de travailler sur les précédents mandats.
Qui va porter le bilan de Bernard-Jean Méperalta ? Ce sera vous ? Ou ce sera Camille Galtier qui compte aussi à ses côtés 10 élus actuels ou anciens?
Quand Bernard Jeanmey m'a demandé d'être sur sa liste il y a maintenant 6 ans, j'ai volontiers accepté parce que je considérais que son bilan sur les 2 premiers mandats était bon. Je reste sur cette idée. Je considère que notre troisième mandat sera aussi très bon. Tout n'a pas été parfait, je pense qu'on y reviendra. Je trouve un peu fort de café, j'avoue, d'un certain nombre d'élus qui sont là depuis 2 ou 3 mandats, aujourd'hui de cracher un petit peu dans la soupe et de rejeter un petit peu ce bilan-là en me mettant sur les épaules, je dirais, l'homme du passé et l'homme des 3 mandats. Je pense que la situation aujourd'hui de Manosque, elle mérite mieux. Il y a des décisions qui ont été prises sur le premier et le deuxième mandat qui ont eu des conséquences sur le troisième et il faut assumer l'ensemble.
Selon Pascal Antic, vous n'êtes pas le bon candidat et je le cite, on n'a pas besoin d'un fonctionnaire de plus, qui plus est tout en haut.
D'abord, ce n'est pas très gentil pour les fonctionnaires et collaborateurs de la mairie qui sont des gens que je connais bien. J'avoue que ça me fait un petit peu sourire. J'ai dirigé une entreprise pendant des années qui avait quand même quelques dizaines de salariés quand j'ai cédé la direction, avait plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc je sais de quoi je parle quand je parle de gestion de projet et de prise de risque et de créativité et de développement, je dirais, d'une entreprise et par extension d'une collectivité, même si une collectivité, évidemment, n'est pas une entreprise comme les autres.
Mais qu'est-ce qui fait de vous le bon candidat? Parce que c'est ça qui est en train d'être pointé. Vous n'êtes pas le bon candidat. Valérie Pesson, dites-vous que vous n'avez pas d'expérience. Elle va même plus loin. Hein. Vous n'avez rien fait, ou presque. Vous êtes juste conseiller aux finances, où on ne fait que suivre les directives du maire et des services.
Non, quand on est conseiller aux finances, on gère les budgets. On est là pour effectivement donner du lien, donner une cohérence, y compris sur le plan budgétaire. Je n'ai rien fait, donc j'ai fait, je pense, le job aux finances. Et aujourd'hui, les finances de la ville sont en très bonne situation, tout le monde le sait. Et malgré tout, On a quand même fait de l'ordre de 10 millions d'euros d'investissement par an, ce qui, pour une petite ville moyenne comme Manosque, avec ses 24 000 habitants, est quand même tout à fait intéressant. Et je pense qu'il y a beaucoup de villes de cette taille-là qui aimeraient pouvoir investir ces sommes-là.
On enregistre à peu près 5 ans hein, d'annuité de dette au niveau de Manosque, 5,2 ans pour être tout à fait précis. Mais par contre, par rapport à la dette par habitant de Manosque, elle était en 2017 de 1175 euros par habitant. C'est plus que la moyenne nationale qui est à 962 euros et c'est plus que la moyenne des villes de 20 000 à 50 000 habitants qui est de 1060 euros. C'est plus,
Oui,
il y a encore du travail à faire.
je pense qu'on va finir le mandat avec une dette qui sera probablement de l'ordre de 950 à 970 euros par habitant. Donc on sera tout à fait dans la moyenne, peut-être même basse, des villes de taille équivalente. Et je le rappelle, on a pour autant fait de l'ordre de 50 à 60 millions, 55 millions d'euros d'investissement sur le mandat et des investissements qui ont fortement structuré la ville, tout en permettant une diminution de la dette. Je pense que c'est quand même un bilan qui me semble très favorable.
On parle beaucoup d'investissements et notamment pour le centre-ville. Vous voulez les réorienter. Est-ce que ça veut dire que certains portefeuilles devront se retrouver un peu plus vides qu'actuellement?
Il y aura à coup sûr des choix à faire.
Qui va en pâtir de ces choix?
On y travaille aujourd'hui et je pense que laissez-moi le temps pour une prochaine interview de pouvoir vous préciser un peu plus là où effectivement il y aura des choix qui devront être faits. Je pense qu'un premier élément, c'est qu'il faut faire en sorte que les investissements qui ont été beaucoup réalisés sur la périphérie de la ville, il faut faire revenir les investissements dans le centre-ville. Il y a un enjeu majeur pour que ce centre ancien, je parle du centre ancien, là du centre historique, notamment, il se requalifie, qu'on requalifie l'habitat. Donc il va falloir effectivement remettre des investissements sur la réhabilitation de l'habitat, remettre des investissements aussi pour requalifier les espaces publics. Il faut que les Manosquins aient envie de se promener, de flâner, justement de faire du lèche-vitrine et aussi des achats dans le centre-ville. Deuxième chose, je crois qu'il va falloir faire appel beaucoup plus qu'on ne l'a fait à du partenariat public-privé sur un certain nombre de grands programmes d'investissement.
Ça fait depuis des années qu'on en parle dans chaque collectivité. Pour autant, ça semble très compliqué à mettre en place. Ou en tout cas, les privés ne semblent pas forcément friands. Comment attirer les privés dans des projets qui les intéressent? Et deuxièmement, autour de quels projets?
J'ai eu des contacts avec un certain nombre de grandes entreprises locales qui sont tout à fait prêtes à nous accompagner, mais ce sera effectivement qu'un complément. Non, je pense qu'aujourd'hui, à l'image de ce qui se fait dans un certain nombre de villes que je suis allé visiter, voir comment ils avaient fait, je parle de Brignoles, je parle de Toulon, je parle de Grasse. Aujourd'hui, des investisseurs sont prêts à réinvestir sur le centre-ville, à condition qu'évidemment, derrière ça, il y a un modèle économique qui fonctionne pour eux, c'est-à-dire qu'il y a un retour sur investissement. Et s'il n'y a pas de retour à investissement, la collectivité peut apporter ce complément. Mais la requalification de l'habitat, aujourd'hui, c'est très clair. Je pense qu'il y a des investisseurs qui seront prêts à revenir, à condition qu'ils sachent que la collectivité va les accompagner et les soutenir. Le dossier de la glacière, à proximité du cinéma et du parking. C'est un bâtiment qu'il faut absolument requalifier, de 1800 mètres carrés. Il faut en refaire un lieu de vie. Permettre, à l'occasion de la requalification de ce bâtiment, qui sera fait par des groupes privés. Aujourd'hui, je suis en contact avec un certain nombre de grands opérateurs qui sont intéressés pour investir dans ce bâtiment-là, pour à la fois faire un lieu de vie, peut-être un restaurant, une brasserie, des salles d'exposition, des salles de réunion et puis des bureaux.
Vous voulez aussi consulter la population. Alors ça, c'est quelque chose que l'on entend énormément, voire même aujourd'hui de partout, dans chaque campagne municipale, dans chaque collectivité. Il faut écouter, entendre la population, il faut qu'elle revienne autour de la table des discussions. Ça fait quand même un peu populiste, Armelle Le Hen.
Moi, je suis issu de la société civile. J'ai fait mes premières armes, disons, dans le domaine public, en tant que président d'un conseil de développement du pays des Hauts-de-Provence. La démocratie participative, je l'ai pratiquée, je sais ce que c'est. Je crois à la participation citoyenne, mais je vous dis, je ne crois pas à celle des réunions de café qui ne rassemblent que les acquis d'avance. Et on fait de l'entre-soi.
C'est un message à Camille Galtier qui a lancé ses tournées, notamment dans des cafés de Manosque.
Les gens se reconnaîtront. Simplement, moi, je ne travaille pas de cette façon-là. Je multiplie les rencontres dans les quartiers, auprès des associations, auprès des certains acteurs. Je vais au contact.
Mais oui, mais aller sur le terrain, mais aussi donner une part à la population, une part du gâteau.
Là-dessus, moi, j'ai une proposition très précise. Je mettrai sur la table ce qu'on appelle un budget participatif, dont le montant reste effectivement à établir, plusieurs centaines de milliers d'euros probablement. C'est-à-dire que sur le montant global des investissements, on consultera la population. Alors évidemment, il y aura un cahier des charges qui sont en phase avec la vision de la ville et de ce qu'on veut donner et du bien-être qu'on veut développer dans cette ville. Et là-dessus, c'est des choses qui fonctionnent. Je pense que les associations, je pense que des groupes de citoyens sont prêts à s'emparer de ça. Et cette démocratie participative, plutôt de faire des consultations à longueur de temps, je pense que c'est dans le concret, dans l'action, sur des budgets identifiés, avec des actions identifiées, que les choses fonctionnent.
Vous le disiez tout à l'heure, aujourd'hui, je veux redonner un peu plus de sens au centre-ville. Je veux que les Manosquins puissent s'en emparer à nouveau et puissent flâner en toute tranquillité. Ça va sembler compliqué, justement, parce que la sécurité, c'est là où ça pêche énormément du côté de Manosque. Il y a un palmarès qui a été établi, ville idéale. Pour Manosque, alors il y a certains bons points, voire très bons points, notamment la santé, qui a plus de 5 sur 10. Par contre, la sécurité, c'est 2,78. On sait qu'il y a un diagnostic qui a été lancé il y a quelques mois du côté de Manosque. On fait quoi de la sécurité à Manosque ?
Je parlerai autant de sentiments d'insécurité que d'insécurité réelle. On nous a présenté il y a effectivement quelques semaines un certain nombre de statistiques qui montrent que globalement, beaucoup d'actes d'incivilité baissent et qu'il y a quelques sujets, notamment les cambriolages des villas en périphérie, qui ont légèrement augmenté, très légèrement augmenté. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment une dégradation en matière de sécurité sur Manosque.
Mais alors, il vient d'où ce sentiment d'insécurité ?
Ce sentiment, il vient du fait, effectivement, une ville, un centre-ville qui le dimanche ne vit pas, dont les commerces sont fermés et avec plus d'animation derrière à partir de 18h30 ou 19h suivant les périodes de l'année, effectivement, ça donne une impression aujourd'hui, effectivement, de ville vide, et donc ça peut développer ce sentiment, et il est tout à fait compréhensible. Donc, effectivement, il faut faire en sorte que la ville et son centre-ville vivent plus, qu'il y ait plus de monde. S'il y a du monde, ce sentiment, de fait, il disparaîtra ou il s'atténuera tout du moins. J'ai parlé de l'habitat et de sa rénovation. Il faut faire revenir des populations, réimplanter de la mixité sociale.
Faire revenir les commerces aussi.
Alors, deuxième point, évidemment, vous avez raison, ce qu'on appelle, nous, hein, c'est un peu jargonnant, un parcours client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut repenser tout ça, même si des choses, là encore, sont engagées. On a des parkings, la Villette, la Poste, le terreau. Il faut recréer un parcours où les gens, ils posent leur voiture. Donc il faut privilégier les modes doux, piétonniser, favoriser l'accès des vélos, faire en sorte que la voiture rentre encore moins dans le centre ancien. Et puis, effectivement, ce parcours client, c'est une politique de stationnement, c'est accompagner les commerces dans leur modernisation, ça je pense, et y compris en matière de mesures fiscales. Bien évidemment, on en a parlé des animations. Il faut faire revenir de l'activité économique. Alors, j'ai parlé de la glacière, mais il y a aussi quelque chose sur lequel il va falloir qu'on travaille. C'est l'avenir du tribunal de commerce qui, dans 2 ans, donc, va être transféré dans des locaux plus modernes. Toute cette place François Mitterrand avec la MJC, auquel il faut redonner une place centrale et une plus grande lisibilité que ce qu'elle a aujourd'hui. La question des mobilités, j'en ai parlé, c'est-à-dire l'accès au centre. Les modes doux, on va travailler sur des coulées vertes. Hein. Là aussi, c'est des choses qui sont engagées, mais il va falloir accélérer, réfléchir et améliorer le transport public, notamment entre la gare et le centre-ville.
Mais je m'arrête sur un des points que vous avez avancé en matière fiscale. Ça veut dire quoi ? Vous allez faire des cadeaux aux commerçants ?
Non. Aujourd'hui, dans le cadre de la politique du cœur de ville, il y a effectivement la possibilité d'accompagner fiscalement en supprimant certaines taxes. Il y a certaines choses qui ont été faites déjà. Il y a eu la suppression de la cotisation foncière des entreprises. La question de voir comment on peut traiter de la taxe foncière. Mais qui est payé par les propriétaires, qui ne sont pas nécessairement d'ailleurs les utilisateurs de ces locaux-là. Donc, effectivement, la question fiscale est importante. Il faut peut-être réfléchir à ce que pour tous les nouveaux commerces qui s'implantent, il y ait pendant quelques années des mesures fiscales qui accompagnent et qui allègent un petit peu les contraintes de ces commerces-là. Il faut aider à l'installation et l'implantation de commerçants. Mais on y aidera d'autant plus s'il y a des habitants, s'il y a de la vie, s'il y a des gens qui ont envie de venir. Sinon, on peut implanter tous les commerces qu'on veut. S'il n'y a personne dans la ville, eh bien, ma foi, c'est pas tout d'ouvrir des commerces. Hein, on baisse le taux de vacances, etc., etc. Faut-il encore que ces commerces gagnent leur vie, ils soient pérennes et qu'ils ne ferment pas au bout de 6 mois ou d'un an? Donc il y a un enjeu. Il y a un enjeu à ce que, évidemment, il y ait de nouveaux commerces, mais qu'il y ait aussi ces commerces vivent et vivent bien.
Armelle Lehen, dernière question. La présidence de la DLVA entre quelles mains demain, après les élections municipales?
Alors, c'est vrai, beaucoup de services aujourd'hui du quotidien des Manosquins sont aujourd'hui pilotés par l'agglomération. L'eau, l'assainissement, le ramassage des ordures, donc les déchets, les transports, la culture. La ville doit avoir centre, a une responsabilité majeure là-dessus. Elle structure ces éléments-là. Et moi, sur cette question de la présidence, j'ai toujours eu le même discours et je n'en varierai pas le montant. Je pense que la DLVA ne doit pas être un enjeu politique. C'est d'abord et avant tout une collectivité qui rend service aux communes. Je pense que la DLVA doit avoir une vision claire, comme la ville doit l'avoir, sur les 20 ans qui viennent. Et je crois que le temps du choix d'un président se fera après les élections municipales et c'est celui qui portera le mieux ce discours-là. Quelle vision? Pas de politique. Comment on améliore les services aux communes et comment on améliore les services aux habitants? C'est sur ces questions-là qu'à mon avis, la présidence se jouera. Donc je n'ai pas
Oui, mais la
de
présidence se
vision
jouera
arrêtée.
sur la présidence se jouera sur Manosque, Armelle Lehen, vous êtes en train de le dire. La ville-centre doit avoir une responsabilité majeure. Ça veut dire que le président doit venir de Manosque.
Je verrai en temps voulu, je verrai en temps voulu. J'entends ce que disent un certain nombre de maires. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur cette question-là. Je pense que les maires sont inquiets, un certain nombre de maires sont inquiets de comment ça va évoluer sur Manosque. Je trouve parfaitement légitime qu'ils expriment aussi une partie de leur inquiétude en disant on verra. Peut-être que ce ne sera pas comme ça s'est fait par le passé avec Bernard Jomet. Je trouve ça légitime et je pense que quand les élections municipales auront eu lieu, le débat s'enclenchera dans les semaines qui suivront.
Et vous serez candidat si vous êtes élu maire.
Je réserve ma réponse aujourd'hui.
Merci beaucoup Armelle Lehen d'avoir été avec nous sur Alpe 1. Je rappelle que vous êtes candidat pour les municipales de Manosque, soutenu par le maire Bernard Jomet et vice-président de l'agglomération, délégué au développement économique et conseiller municipal délégué aux finances. Merci beaucoup.
Je vous remercie.